Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une figure spirituelle du Sud-Ouest, un grand homme de foi mal connu. Il fut tour à tour évêque de Montauban, puis évêque de Tarbes et Lourdes, et après la Seconde Guerre mondiale reconnu juste parmi les nations à Yad Vashem, ce haut lieu de la mémoire de la Shoah. Un homme sur lequel vient de sortir un livre, j'ai nommé Monseigneur Théas. Père Régis-Marie de la Tessonnière, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc l'invité de Vivante Église, un Vivante Église enregistré depuis nos studios à Lourdes, Radio Présence à Lourdes. Vous êtes l'auteur, alors l'essentiel n'a pas été écrit par vous, mais en tout cas c'est une publication que vous avez accompagnée, donc d'un livre intitulé « Mes prisons et leur premier lendemain », juin et décembre 1944. Donc c'est le livre, le journal intime, comme on dit, de Monseigneur Pierre-Marie Théas, qui donc fut évêque de Montauban de 1940 à 47, donc pendant la guerre, et évêque de Tarbes et Lourdes de 47 à 70. Alors pendant cette émission, on va essayer de découvrir la vie de cet homme et ce que dit son livre, son carnet personnel de l'homme de foi qu'il a été et de son rôle qu'il a eu pendant la Seconde Guerre mondiale et particulièrement à la libération. Avant toute chose, avant qu'on se lance peut-être dans une biographie, pourquoi est-ce que vous êtes penché sur cette figure et à votre avis pourquoi est-ce qu'elle vaut le coup d'être découverte par les chrétiens du Sud-Ouest à minima?
Alors c'est très simple, cela m'a été demandé par mon évêque, Monseigneur Nicolas Bouvet, évêque de Tarbes et Lourdes. Il m'a dit il y a à peu près 2 ans, il y a longtemps que vous travaillez sur le Lourdes, sur le 19e siècle, vous pourriez changer, arriver au 20e siècle. Alors je savais pas trop quoi en penser et finalement j'ai pensé à Monseigneur Théas, qui est le grand homme de Lourdes pour le XXe siècle. Et j'ai commencé à lire ses écrits, ses lettres pastorales, ses homélies. Et puis, je trouvais ça très bien, mais j'avais l'impression de ne pas avoir trouvé la clé. Et un soir, il existe un gros livre sur Monseigneur Théas qui a été publié par Mme Sylvaine Guinlay-Lorinet, c'est sa thèse de doctorat il y a quelques années. Et en annexe, elle met ce texte, « Mes prisons et leur premier lendemain ». J'ai lu ça d'un trait et j'étais absolument émerveillé. Émerveillé pourquoi? Parce qu'il raconte en des termes très simples son aventure, son arrestation, sa détention à Montauban, à la prison Saint-Michel de Toulouse, et enfin, au terme de 5 jours de voyage avec d'autres internés, ses 67 jours passés à Compiègne. La façon dont il a vécu son temps de détention et ensuite sa libération et le rôle qu'il a joué pour servir d'intermédiaire, réconcilier en quelque sorte l'Église et le gouvernement provisoire de la République.
Qu'est-ce qui fait de lui, à votre avis, une grande figure spirituelle? Deuxième question peut-être d'introduction avant qu'on se lance. Monseigneur Nicolas Bouvet, dans son mot d'introduction, dit qu'il avait toujours un regard surnaturel sur les événements et qu'il est un exemple de liberté intérieure.
C'est ça. Monseigneur Théas, c'est avant tout un paysan. C'est un homme qui a vraiment les pieds sur terre. Il est né dans ce petit village de Barzin, qui est à une quinzaine de kilomètres de Lourdes, 390 habitants à peu près. C'est un homme solide, mais à l'intérieur de cette solidité, on découvre la sensibilité d'un homme de Dieu. Toute sa vie, il a été proche des saints et des saintes, qui n'a cessé de vouloir imiter, non pas pour eux-mêmes, mais pour se rapprocher de la Vierge et du Christ. Et donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il ait pu se trouver dans son existence, il a toujours eu ce regard surnaturel, c'est-à-dire il a toujours considéré non pas simplement la situation dans laquelle il se trouvait, mais cette situation vécue sous le regard de Dieu.
Alors, commençons par le début. Vous allez donc, on va dans cette première partie essayer de faire une rapide bio de cet homme, essayer de le rendre présent au-delà des siècles, j'allais dire, enfin en tout cas d'un siècle. Pierre-Marie Théas, vous commencez en disant par sa naissance, Pierre-Marie Théas est un paysan. Alors expliquez-nous davantage.
Il est le cinquième fils d'une fratrie de 7 garçons. Voilà. Ce sont des cultivateurs, comme on disait au 19e siècle. Il est né en 1894. Et donc, il a participé pour sa part aux travaux de la ferme, aux travaux agricoles. En même temps, il a toujours été studieux, porté sur les études. Il a toujours été brillant, d'ailleurs, puisque ses études ecclésiastiques seront couronnées par un doctorat de droit canonique à la
Université pontificale
grégorienne
Rome.
À Rome. Voilà. Et en même temps, une de ses particularités, c'est que dans ce petit village de Barzin auquel il est resté attaché toute sa vie, pour lui, sa famille, la communauté paroissiale et la communauté qu'est ce village, ça ne fait qu'un. Voilà, il a cette vision, cette façon de se comporter. Il ne sépare pas sa famille et ses proches d'un côté, la paroisse de l'autre. Pour lui, c'est la même chose et il inclut à travers tout ça toute la communauté du village.
Qu'est-ce qu'on sait du tempérament de cet homme, au-delà du fait que vous avez expliqué donc c'est un homme qui a les deux pieds sur terre et la tête au ciel. Je sais pas, est-ce qu'on a des
Alors,
traces de...
C'est un homme fort, c'est pas une mauviette.
La photo le laisse entendre.
Oui, c'est ça, c'est un homme fort, déterminé, consciencieux et qui ne se résigne jamais. Il ne se résigne jamais. En même temps, c'est une de ses particularités sur le plan spirituel, en même temps, il vit dans une grâce d'acceptation. On en parlera au moment de son arrestation. Donc, il accepte la réalité telle qu'elle est. Voilà. Mais par contre, pour ce qui le concerne, il va être dur avec lui-même. Il va être exigeant avec lui-même. Et tout ce qui dépend de lui, il va le prendre vraiment à bras le corps. Je fais remarquer que nous-mêmes, nous faisons souvent le contraire, c'est-à-dire que quand nous sommes dans une situation difficile, on va se plaindre, on va dire que c'est la faute des autres, et ceci nous empêche de faire ce qu'on pourrait faire soi-même. Alors que lui, il est extrêmement lucide. Il accepte, quand il sera dans ce camp de détention, d'internement, il accepte. Voilà, c'est comme ça. Par contre, dans son comportement au quotidien, il va être intransigeant pour que la justice soit respectée, pour que les uns et les autres se respectent, vivent en bonne intelligence, en bonne harmonie.
Vous me disiez en préparant l'émission que vous aviez quelques lumières sur sa vocation.
Alors oui,
alors, allez-y, c'est le moment.
C'est un homme qui est extrêmement discret, mais le jour après avoir été ordonné évêque en la cathédrale de Bayonne, le 3 octobre 1940, il vient dans son village natal et là il fait une confidence qui nous permet d'avoir accès à sa vocation. Il dit ceci, « Un petit paysan est né dans cette paroisse, il parle donc de lui, a été baptisé dans cette église il y a 46 ans. Un petit paysan qui, pendant son enfance, s'est livré aux travaux agricoles de son âge, qui a, comme ses frères et ses camarades, connu la vie austère d'il y a 40 ans, ce petit paysan se présente aujourd'hui dans la majesté, la splendeur des ornements pontificaux. Malgré son indignité, le bon Dieu a regardé ce petit paysan et l'a choisi pour en faire le successeur des apôtres, pour lui donner la plénitude du sacerdoce, pour lui faire régir un diocèse et le faire participer au gouvernement de l'Église de Dieu. Avec émotion, je vous livre un secret jamais confié. Il y a 40 ans, sur une marche de cet autel du côté de l'Évangile, c'est donc côté gauche, quand on regarde l'autel, pour un salut du Saint-Sacrement, les yeux d'un petit enfant de 6 ans furent attirés d'une manière très sensible par la blanche hostie, et au balbutiement de la foi de cet enfant, la grâce divine pénétra dans son âme et y mit le désir de l'hostie et le désir du sacerdoce. Cette grâce eucharistique, je l'ai reçue dans notre Église. »
Donc ça, c'est pour sa vocation. Donc vous nous dites que c'est un prêtre brillant. Vous dites donc, vous nous avez expliqué qu'il a un doctorat de droit canonique. Et puis, il se retrouve rapidement au séminaire de Bayonne où il enseigne pendant 17 ans la théologie morale. Et alors, dans la rapide biographie que vous faites, il devient ensuite évêque de Montauban. Alors,
c'est ça.
C'est aussi rapide que cela, c'est-à-dire qu'il passe du séminaire de Bayonne à...
17 ans d'enseignement au séminaire de Bayonne, ça prend quand même le temps de...
Un tout petit peu, oui.
C'est ça, d'autant plus que l'évêque, puisqu'il était brillant, lui a confié d'autres missions. Il était notamment aumônier du Carmel de Bayonne. Il a donné des cours de catéchisme pour adultes, ce qui ne se faisait pas beaucoup à cette époque-là. Il prêchait des retraites fermées, comme on dit, pour des prêtres. Il a été responsable de la pastorale des vocations pour tout le diocèse. Et à partir de là, il a créé des groupes. Et il a créé un petit groupe, par exemple, de mères de prêtres. Aussi un groupe de malades priant pour les vocations. Il a été aussi responsable de la croisade eucharistique. Tout ceci lui a permis en même temps d'approfondir ce qu'on peut appeler sa spiritualité, c'est-à-dire sa manière de vivre sa vie chrétienne et de transmettre la foi.
Alors, on avance à grands pas parce que je vois que le temps passe. Donc, il est évêque de Montauban, donc de 1940 à 1947, donc évidemment pendant la Seconde Guerre. Ce qui le distingue particulièrement, si j'ai bien compris, c'est que avec le cardinal Saliège, ils font partie en fait des premiers évêques en France à élever la voix contre l'oppression nazie. Le premier donc est l'évêque de Toulouse, l'archevêque de Toulouse de l'époque, Monseigneur Saliège, qui autour du 23 août 1942 publie une lettre à l'adresse de tous les fidèles, se scandalisant du traitement qui est fait à certains, notamment des juifs, et suit de peu donc l'évêque de Montauban. Alors je vais juste citer un passage et puis je vous demander après de commenter, enfin de recontextualiser cela. Je fais entendre la voix indignée de la conscience chrétienne et je proclame que tous les hommes, ariens et non ariens, sont frères parce que créés par le même Dieu, que tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion, ont droit au respect des individus et des États. Alors on n'en lit pas davantage parce que on revoit à la lecture du livre, mais redites-nous, vous n'avez peut-être pas connu cette époque, mais recontextualisez en fait la force de ces deux adresses aux fidèles de ces évêques.
L'événement marquant pendant la Seconde Guerre mondiale a été ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv en juillet 1942. Et donc l'Église a réagi. D'abord, la conférence des archevêques, des cardinaux et des archevêques s'est prononcée par un texte. Il faut préciser qu'à ce moment-là, la France était coupée en deux. Il y avait la zone occupée, la zone dite libre. Bon. Cette lettre a été transmise, ça a pris un peu de temps, mais elle a été transmise à l'ensemble des évêques qui, eux, l'ont répercutée chacun à sa façon. Et le premier à l'avoir répercutée avec ces mots, c'est donc le Monseigneur Saliège à Toulouse. Et lecture a été faite de la lettre de Monseigneur Saliège dans chaque église du diocèse de Toulouse. La semaine suivante, ça a été au tour de Monseigneur Théas, mais Monseigneur Théas s'est appuyé à la fois dans sa lettre du 26 août 1942, il évoque en même temps la rafle du Veldiv, qui a quand même été la chose la plus cruelle pendant la Seconde Guerre mondiale, l'événement le plus cruel, le plus horrible, et en même temps sur des événements comparables qui ont eu lieu quelques jours auparavant dans son diocèse de Montauban. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'élève. Et il dit, je lis le paragraphe suivant, les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. C'est-à-dire qu'il désigne, il parle d'antisémitisme, puisque ce sont les juifs qui sont attaqués, qui sont persécutés. Voilà. Et cette lettre va avoir un retentissement très important, d'une part parce qu'elle va être reprise par toute la presse clandestine, mais aussi parce qu'elle va être certainement la seule à être lue sur Radio Londres. Et on peut dire que de la même façon que l'appel du 10 juin du général de Gaulle a fondé la résistance, de la même façon, cette lettre de Monseigneur Théas pour le respect de la personne humaine du 26 août 1942 a été la même chose pour la résistance spirituelle. Et elle a apporté vraiment non seulement espérance à beaucoup de personnes, mais elle a fortifié tous ceux qui étaient engagés secrètement et pour cause pour accueillir, pour protéger, pour cacher des hommes et des femmes juives et pour les faire, dans certains cas, passer en Suisse ou en Espagne.
Alors, sa captivité et son rôle au moment de la libération, peut-être qu'on y reviendra dans les deux parties suivantes, puisqu'il a vécu donc de manière assez exemplaire, presque héroïque, hein, cette captivité, avec des grâces aussi très singulières, puisqu'il dit en fait donc dans son journal qu'il a vécu ça dans une grande paix, dans une grande union, entre autres, au Saint-Père, Pie XII. Et donc après-guerre, on verra ça à la fin, dans la troisième partie de l'émission, il a donc joué un rôle clé, peut-être au regard de ce que vous venez de dire, hein, de ce, la publication de ce message sur Radio Londres, un rôle clé, et donc il a été un des intimes du général de Gaulle. En tout cas, j'ai découvert ça en lisant votre livre. Peut-être juste, si on finit cette première partie sur en faisant cette grosse parenthèse qu'on va développer, Monseigneur Théas, après-guerre, alors, quel évêque a-t-il été de Montauban, de retour, semble-t-il, a été profondément transformé par ce qu'il a vécu, et puis après, quel évêque de Tarbes-et-Lourdes, le livre s'arrête avant.
Voilà, c'est ça. Monseigneur Théas est connu en tant qu'évêque de Montauban pour cette lettre et le prix qu'il a payé par la détention et l'internement. En tant qu'évêque de Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Théas est connu comme étant l'initiateur, le constructeur de cette fameuse basilique souterraine Saint-Pidis. Voilà les deux images fortes. Mais ces deux images cachent à Montauban une activité débordante dans son diocèse et aussi au niveau de l'épiscopat français. Et cette basilique souterraine Saint-Pidis cache tout ce qu'il a fait à Lourdes et pour Lourdes. Mais il ne faut pas oublier le diocèse de Tarbes qu'il a arpenté de tous les côtés à longueur de ses 23 années de ministère. Voilà. Et il a profondément marqué les personnes du diocèse de Montauban et les personnes du diocèse de Tarbes et Lourdes.
On va faire une première pause. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Mes prisons et leur premier lendemain, juin-décembre 44, donc journal de Monseigneur Pierre-Marie Théas.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc Monseigneur Théas, juste parmi les nations, l'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir cet homme qui est donc, pour rappel, a été évêque de Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale, puis évêque de Tarbes et Lourdes, décédé en
1977, le 3 avril. Il est né le 14 septembre, jour de la Croix Glorieuse, qui est, cette année-là, en 1894, était un vendredi, et il est né à 15h, 3h de l'après-midi. Il est mort le 3 avril 1977, qui cette année-là était un dimanche, le dimanche des rameaux et de la passion. Voilà, il est mort, on l'a trouvé bréviaire en main en train de méditer l'office de la passion.
Donc vous avez accompagné la publication donc d'un livre donc qui est son journal Mes prisons et leur premier lendemain, et vous êtes donc le père Régis Marie de la Tessonnière, chapelain au sanctuaire de Lourdes. Alors maintenant on va parler de toute cette période de la Seconde Guerre, quand il a été en captivité, on va dire jusqu'aux portes de la libération ou jusqu'à la libération. Dans son journal, c'est le tout début. C'est le 9 juin donc 1940, c'est bien ça, hein?
44,
pardon. 9 juin 1944, excusez-moi. Il est dit la chose suivante. Il entend en fait des coups de sonnette répétés et il sent bien qu'on vient l'arrêter. Et il raconte en fait qu'il a été à ce moment-là inondé par une grâce très particulière. Dieu m'accorde une grâce insigne, je sens subitement dans mon âme profonde une paix ineffable, un sentiment de joie. Je vais y arriver à l'idée que ma liberté allait m'être enlevée dans quelques secondes. Et je dis suspicé, soucipé, j'imagine que...
C'est ça. Alors...
Racontez-nous ce...
Alors on peut dire justement ce « Chouchipé », qu'est-ce que ça veut dire? C'est une prière très simple que l'on doit à saint Ignace de Loyola. Je la lis. « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. » À ce moment-là, Monseigneur Théas bénéficie d'une grâce d'acceptation. Alors, nous sommes au mois de janvier, et au mois de janvier, on célèbre la conversion de saint Paul, on célèbre le lendemain la fête de saint Tite et saint Timothée. Et donc, on est amené par la conversion de saint Paul à replonger dans le saint Paul en prison, qui accepte. Il est en prison parce qu'il proclame l'évangile, il accepte. Eh bien, Monseigneur Théas est saisi, envahi, bénéficiaire de cette immense grâce d'acceptation qui va le poursuivre toute sa vie. Et dans son bref testament spirituel, il commence ceci. Bon, ceci mon testament, ça date de 1975, 2 ans avant sa mort. « Je demande à Notre-Dame... la grâce d'accepter la mort avec une humble soumission à la volonté de Dieu. » Vous voyez, l'acceptation.
Alors il y a une autre grâce, semble-t-il, qu'il reçoit, qui se sent comme mystérieusement, profondément uni au pape.
Oui, c'est effectivement... Alors, pour le comprendre, c'est le cœur de sa spiritualité, c'est-à-dire sa façon de vivre la vie chrétienne, qui les catholiques plus âgés se souviennent de ce qu'on appelait les trois blancheurs. Les trois blancheurs, c'est un rêve de saint Jean Bosco. En 1862, au mois de mai 1862, saint Jean Bosco reçoit ceci, que l'Église allait être persécutée, et que donc il fallait s'appuyer sur la première blancheur qui est le pape, vêtu de blanc. Deuxième blancheur, l'Eucharistie, la blanche hostie. Et troisième blancheur, la Vierge Immaculée, également vêtue de blanc. Voilà. Ça, c'est le fondement de la spiritualité de Monseigneur Théas. Et donc, toute sa vie, il a été profondément attaché au pape, comme serviteur du pape, et comme le pape, pour lui, est vraiment le Christ sur la terre, le vicaire du Christ sur la terre. Et non seulement ça va être sa première réaction, c'est d'offrir effectivement sa souffrance pour le vicaire du Christ, mais à un certain moment dans le camp de Compiègne, il a reçu trois visites, deux de l'abbé Rodin, qui était l'aumônier des prisonniers, et l'un du chanoine Delvigne, qui était le curé de Compiègne. Et au chanoine d'Elvigne, il dit la chose suivante. Faites savoir aux nonces que j'offre toutes mes souffrances pour le pape. Voilà, aussi pour l'Église et pour son diocèse, mais enfin pour le pape d'abord.
Je raconte juste le. Je lis un autre passage. Quand il arrive dans sa cellule, une obscure clarté pénètre dans ma cellule et me révèle un bas-flanc. Je tombe à genoux et je rencontre Dieu. Je n'ai que lui, mais il me suffit. Lui, personne ne m'enlèvera, ni la joie qu'il fait jaillir au fond de mon cœur. Et puis, et voici que s'impose à mon âme la pensée de toute l'Église répandue. Voici que je me sens mystérieusement et fortement uni à sa sainteté, le pape Pie XII. Et puis on verra après, un peu plus loin dans l'émission, qu'il y avait aussi probablement quelque chose de... une intuition assez prophétique, puisqu'il jouera un rôle après-guerre important. Alors, il est emprisonné donc à Montauban, à Toulouse, vous le dites, vous l'avez dit donc rapidement, et puis il se retrouve à Compiègne.
À Compiègne, c'est ça.
Et il a le matricule 41-925 au Frontalac, comment
oui,
dit-on
Frontalac,
voilà,
122.
De Compiègne. Racontez-nous ce que. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs peut-être de cette période, à ce moment-là, du trajet qu'il a vécu et en fait de la réalité de la vie dans ce camp ?
Alors déjà, quand il est à Montauban, il est tout seul dans une cellule. Donc cette cellule est devenue pour lui un oratoire, c'est-à-dire un lieu de prière. Si ce n'est que sa première expérience, pour la première fois depuis sa première communion, il ne peut pas communier. Voilà. Il a communié tous les jours de sa vie, il précise, même pendant la Première Guerre mondiale, il a été pendant 5 ans, même les jours même dans les tranchées, même les jours d'attaque, il a toujours communié. Voilà. Ensuite, à Toulouse, à la prison Saint-Michel, il rejoint d'autres détenus. Donc un certain nombre sont assez célèbres, que ce soit des hommes d'église, comme Monseigneur de Solages, recteur de l'Institut catholique, et d'autres professeurs, mais aussi des personnes comme M. Jean Bailey, la Dépêche du Midi, comme M. Delteil, recteur de l'Académie, M. Han, maire de Toulouse. Voilà, d'autres. Et puis M. Albert Sarraud, ancien président du Conseil. Et tous ensemble, ils vont voyager pendant 5 jours en train, dans des conditions dures, pour arriver à Compiègne. Et à Compiègne, ils arrivent au début de la nuit. Ils traversent la ville. Et c'est à peu près. Je l'ai fait moi-même de la gare jusqu'au camp pour essayer de revivre un petit peu ce qu'avait vécu Mgr Théas. Je crois que ça prend à peu près une heure. Voilà. Il se trouve dans cet univers, alors complètement autre. Le camp comportait 24 baraques en forme de U. Voilà. Chacun reçoit un matricule, une gamelle, une cuillère, 2 couvertures. Voilà. Paradoxalement, ils sont très contraints, mais en même temps, ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'organiser. Il y a simplement 2 appels par jour, le matin et le soir, pour être sûr que personne ne s'échappe. Et ils peuvent s'organiser, donc ils s'organisent.
Alors, on va voir comment ils s'organisent. Oui, quand il arrive, une personne lui fait leur remarque, lui dit « Enfin un évêque.
Oui,
Monseigneur, ouais. nous attendions des évêques, nous avons prié pour que des évêques fussent arrêtés, c'est nécessaire. »
Alors, quand il rencontrera le général de Gaulle, Mgr Théas fait remarquer que l'Église a vraiment été le corps le plus touché dans la résistance et que les prisons, les camps d'internement, de déportation étaient remplis avec des prêtres, des religieux, des religieuses, mais effectivement pas beaucoup d'évêques, puisque je crois qu'il y en a 4 ou 5 simplement qui ont été arrêtés. Et cette phrase a du sens, puisque à partir de la présence d'un évêque dans ce camp d'internement de Compiègne, eh bien l'Église pouvait s'articuler normalement et être elle-même, c'est-à-dire vivre l'annonce de l'Évangile, vivre la prière, vivre la célébration des sacrements.
Alors comment s'organise la vie dans le camp ? Parce que, en lisant ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est qu'arrivent en fait des gens qui ont vécu des choses terribles,
oui.
et Mgr Théas s'en scandalise, et en même temps, on a l'impression qu'il règne une grande fraternité, même parfois une grande paix à l'intérieur de ce camp. Donc ça paraît être un lieu où se vivent des choses vraiment tout à fait...
Paradoxal, c'est ça. On peut lire le témoignage de religieux qui ont été internés au Blas de Marie Immaculée, qui ont été internés en même temps que lui. La présence de Mgr Théas, évêque de Montauban, nous surprend. Il a ceinture et croix pectorale, c'est-à-dire la tenue de l'évêque avec la soutane. Une frontière nous interdira l'accès au camp C où il se trouve. Nous pouvions converser avec l'évêque de Montauban qu'à travers un grillage. Seule la tolérance d'un gardien décidait de la longueur des propos échangés. Voilà. C'est-à-dire que d'une part, il a été le défenseur de la dignité humaine, comme il avait écrit dans cette lettre du 26 août 1942. Il a été concrètement le défenseur de chacun dans ce camp. Il était, alors je ne sais pas le titre exact, mais une sorte de délégué des internés pour aller voir l'autorité et toujours de façon courtoise, mais très précise, pour se plaindre, pour demander ceci, pour demander cela. Et
il y a un passage dans son journal où il demande même à un moment qu'il puisse changer de chemise.
Alors c'est ça, voilà.
Et alors l'allemand, le nazi, lui rionnait.
C'est ça. Mais en même temps, à travers cette humiliation, il a finalement obtenu gain de cause, puisque peu de temps avant leur libération, ils devaient être déportés en Allemagne. Et donc, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus de leur valise, leur bagage. Ils n'y avaient plus rien du tout. Ils sont restés comme ça pendant 10 jours. Et finalement, ils ont récupéré leur valise, c'est-à-dire tout leur bien. Et en ce qui le concerne, lui, il n'a pas été déporté en Allemagne.
Alors, cet évêque devient même gênant, si j'ai bien compris.
Oui.
Et il est un temps où les Allemands se demandent ce qu'ils vont en faire. Et se demande si, justement, ils ne vont pas le déporter, c'est ça ?
C'est ça. Alors, il y a la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'il a baptisé un monsieur, donc un juif, et que ça, c'est su. Il a été dénoncé, et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment une grande hostilité contre lui. Et paradoxalement, donc, il y a eu une brimade, il a été déplacé, mis un petit peu à l'écart avec les gens de son groupe, de sa baraque. Ils ont été isolés. Mais en même temps, lui-même, en raison de sa façon de vivre l'évangile très intempestive et d'annoncer toujours l'évangile à temps et à contre-temps, il a finalement été paradoxalement préservé de la déportation. Voilà, il s'est fait tellement mal voir que...
Tout le monde a été déporté, sauf lui, en fait.
Dans son groupe, il a été seul... Enfin, ils ont été 3 ou 4 à ne pas être déportés.
Ouais. Alors, l'intérêt d'évoquer sa captivité, c'est en faisant écho au propos que j'ai cité de Mgr Nicolas Brouvet, donc l'évêque actuel de Tarbes-et-Lourdes, qui parlait donc de cet exemple de liberté intérieure, c'est de faire état des leçons ou des bienfaits que Mgr Théas dit avoir retirés de sa détention. Je les citerai, puis je vous laisserai commenter. Après sa libération, donc le 12 septembre 1944, 3 jours après son retour à Montauban, donc dans son diocèse de l'époque, il s'adresse à ses prêtres et il dit les bienfaits pour lui de cette période terrible. Parce que ça a été difficile pour lui, mais aussi on sent bien que son cœur de pasteur était bouleversé par tout ce qu'il voyait. Alors on peut peut-être pas tous les citer, mais par exemple, bienfaits de la pauvreté absolue. Il dit la chose suivante, la pauvreté qui a faim, qui est âpre à supporter, mais qui est la vraie richesse, commençons alors que c'est dans le dépouillement et dans le détachement, quand tout vous manque, qu'on possède tout, etc., etc. Est-ce que vous pouvez citer peut-être ces bienfaits et en quoi là on peut s'en inspirer ou prendre ça en exemple.
Alors, je redonne le contexte, effectivement, à son retour à Montauban au mois de septembre 1944, il est reçu triomphalement, et là il fait une découverte, c'est-à-dire qu'il découvre à quel point lui était prié pour le pape, pour l'Église, pour son diocèse, mais il découvre que son diocèse a été tout entier en prière pour demander sa libération. Et voici une phrase qu'on a marquée en exergue au début de ce livre, de Mgr Théas, ce qu'il dit à ses prêtres à Montauban, dès son retour le 10 septembre 1944, « Depuis mon arrestation, je n'ai cessé de vivre dans une véritable allégresse d'âme. Après mon baptême et mon sacerdoce, je considère mon arrestation comme la plus grande grâce de ma vie. » Voilà, donc ça c'est ce contexte d'acceptation. Et à partir de là, il découvre cette expérience de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas simplement pour lui le fait de ne pas avoir d'argent, mais c'est le fait d'être complètement... Il est prisonnier, il est enfermé, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'a plus rien, et ils ont passé 10 jours avec rien, aucune affaire personnelle. Ils avaient rendu leur car et leur cuillère, ils avaient rendu leur couverture. Et c'est dans cette pauvreté, c'est-à-dire cette dépendance absolue, qu'il fait l'expérience de Dieu. Je n'ai plus rien, mais je peux enfin découvrir que Dieu est dans mon cœur.
Voilà, il parle aussi des bienfaits de l'humilité et des humiliations qu'il a vécues. Est-ce que vous pouvez éclairer cela, peut-être, pour ceux qui vivent ça, parmi nos auditeurs, peut-être ?
L'humiliation, quand on est évêque de Montauban, ben forcément, on habite une grande maison, on a du personnel, on dit à l'un, fais ceci, il le fait, à l'autre, va là-bas, il va là-bas. Et là, subitement, il se retrouve prisonnier et donc dépendant de l'administration du camp. Et quand il a été reçu par les responsables du camp à plusieurs reprises, ou parce qu'il était convoqué, ou à sa demande, et à chaque fois, c'était des très grandes humiliations. C'était des très grandes humiliations. Mais en même temps, lui, il a vécu en disciple de Christ, en disciple de l'Évangile, à la manière des apôtres Saint-Pierre, des apôtres Saint-Paul. Voilà. Jésus a été bafoué, il a été flagellé, il a été crucifié. Mais Jésus, pendant ce temps-là, était avec le Père. Et Mgr Théas a été humilié, mais dans son cœur, il était avec le Christ.
On aurait pu dire bien d'autres choses sur cette période de captivité, entre autres le fait qu'il dit avoir découvert une France qu'il ne connaissait pas, et vraiment des âmes héroïques, peut-être qu'on peut finir là-dessus.
Alors, ça, c'est très touchant, parce qu'il il découvre déjà à Toulouse, en faisant notamment là, il s'est lié d'amitié avec Monsieur Albert Sarraut, donc ancien président du Conseil, et donc un homme politique très connu d'entre-deux-guerres. Et là, il découvre déjà une France qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire ces hommes politiques qui ne sont pas contre l'Église, qui ne sont pas forcément pour non plus. Voilà, donc il arrive vraiment à se lier d'amitié avec lui, à échanger, etc. Et à Compiègne, il rencontre beaucoup de résistants, dont un certain nombre sont catholiques, donc ne sont pas du tout, voilà, qui sont des gens qui ont vécu héroïquement cette période de la guerre dans la résistance. Et c'est quelque chose à laquelle il n'avait pas accès. Au début de la guerre, il est encore à Bayonne. Bayonne est en zone occupée. Donc la notion de résistance est tout à fait autre. C'est en arrivant à Montauban. Il se trouve que par un concours de circonstances, l'évêché n'était pas disponible. Donc, il habite au séminaire, ce qui ne le change pas parce qu'il vient de passer 17 ans au séminaire de Bayonne comme professeur. Il habite au séminaire avec les professeurs du séminaire. Et là, il découvre que ces professeurs sont résistants. Et pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Et lui va le devenir, mais il va le devenir non seulement pour résister contre l'occupant, mais pour résister intérieurement, spirituellement, pour résister au mal et annoncer toujours la vérité, et la défendre et donner l'exemple.
Mes prisons et leur premier lendemain, donc journal de Mgr Pierre-Marie Théas, on fait une deuxième pause, publiée aux éditions Onto, et on va vous retrouver pour parler de l'après-guerre, puisque moi j'ai découvert ça donc à la faveur de la lecture de ce journal. En fait, il a joué un rôle clé au moment de la libération. Il est devenu en fait l'intime du général de Gaulle et du pape Pie XII pour cette période difficile pour l'Église de France.
Capella.
Cette émission Vivante Église, ce matin donc, Monseigneur Théas, un juste parmi les nations. Pour rappel, un juste parmi les nations, eh bien c'est un titre d'honneur, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, qui a été donné après-guerre par le peuple juif pour un certain nombre de personnes qui ont résisté de manière héroïque et entre autres protégé les juifs pendant la dernière guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce Monseigneur Théas, donc, qui a été, pour ceux qui nous rejoindraient, évêque de Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale, puis évêque de Tarbes et Lourdes, et le père Régis Marie de la Tessonnière, qui est avec nous ce matin en plateau, chapelain du sanctuaire de Lourdes, qui a publié son journal de juin à décembre 1944, intitulé « Mes prisons et leur premier lendemain » paru aux éditions Honto. On s'est dit donc dans cette dernière partie que vous allez nous faire découvrir le rôle clé qu'a joué cet évêque au moment de la libération. Alors peut-être ça n'intéressera que les historiens, mais au moins ça nous fera quand même quelques auditeurs. Et c'est l'occasion aussi de faire mémoire de cette époque, pour le coup extraordinaire. Et d'ailleurs, Monseigneur Théas laisse entendre qu'il y a là quelque chose de l'ordre du miracle. Vous mettez en note additionnelle dans le livre un extrait d'une de ses homilies ou de son discours le 10 décembre 1944 à Lourdes, où il dit que c'est en fait toute une partie de la France qui vient dire merci ici à Lourdes pour la libération. Et il dit « On a jadis parlé du miracle de la Marne, donc c'était au moment de la Première Guerre mondiale, laissant entendre qu'en fait la libération de la France était un autre miracle et qu'il fallait venir ici en remercier la Vierge. »
Voilà. Alors, Monseigneur Théas donc est interné au camp de Compiègne. On est dans un contexte très, très difficile du mois d'août, et il va être libéré le 24 août. Paris sera libéré le 25. Le 24 août, à 17h50, on lui dit qu'il faut qu'il soit à la porte de sortie à 18h. Ils sont une quarantaine à être libérés. Il se réfugie au presbytère de Compiègne. Le chanoine Delvigne lui avait d'ailleurs rendu visite une fois pendant son temps d'internement. Et il va passer plusieurs jours, alors complètement déconcerté par toute cette tension tout autre qu'il découvre à Compiègne. Et quelques jours plus tard, Compiègne est libéré et il peut quitter Compiègne et rejoindre Paris. Et là, il découvre Paris au début du mois de septembre dans une effervescence extraordinaire. Et la première des choses, bien sûr, il va rencontrer le cardinal Suard, archevêque de Paris. Et la première des choses, il apprend ce qu'on a appelé l'incident du Tédéum.
Alors expliquez-nous Alors, en Tédéum, quelques mots ce que c'est.
Le 25 août, le général de Gaulle entre dans Paris. Et le 26, il voulait rendre grâce, donc aller à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour chanter ce chant de remerciement et d'action de grâce. Il se trouve que le gouvernement provisoire de la République rend visite par deux de ses émissaires au cardinal Suard pour lui demander de ne pas être présent à Notre-Dame.
Donc ça fait tout cardinal Suard, c'est donc le cardinal archevêque de Paris.
C'est ça. Donc ça fait un incident. Et finalement, l'argument du général de Gaulle, c'était pour dire, bon, la situation est difficile. Le cardinal Suard, s'il se présente dans ces circonstances à la cathédrale, risque sa vie. Et effectivement, quand le général de Gaulle entre dans la cathédrale, il y a déjà une fusillade sur le parvis. Et ensuite, quand il traverse l'allée centrale, dans la nef de la cathédrale, il y a des coups de feu qui partent du buffet de l'orgue et des personnes qui sont dans une autre partie de la cathédrale qui répondent toujours avec des mitraillettes. Voilà. Alors, à partir de là, il y a eu, à partir de cet incident, il y a eu vraiment une relation extrêmement difficile entre le cardinal archevêque de Paris et le général de Gaulle. Et donc, Monseigneur Théas arrive à ce moment-là et il est désigné par la force des choses, en quelque sorte, comme le médiateur entre l'Église et le gouvernement provisoire, et le chef du gouvernement provisoire, donc le général Charles de Gaulle.
Voilà, puisque donc le général de Gaulle considère que l'épiscopat s'est compromis pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc demande même à un moment au Saint-Siège qu'un certain nombre d'évêques soient remplacés.
Alors c'est ça. Le général de Gaulle, ses ministres, Monseigneur Théas les a tous rencontrés les uns après les autres, demandent la démission d'évêques. Or, un évêque n'est pas... Alors lui, il répond qu'un évêque n'est pas un préfet. Le préfet, il est nommé, il est déplacé, il est renommé ailleurs. Un évêque, voilà, il est nommé par l'Église, par le pape. Et à travers une nomination, c'est l'Esprit Saint qui établit l'évêque pour gouverner l'Église de Dieu, une portion de l'Église de Dieu, un diocèse. Donc un évêque ne peut pas démissionner comme ça. Alors donc, il a fallu d'une part discuter, ça c'est un peu de la diplomatie, mais aussi de la patience, pour faire comprendre au général de Gaulle et à ses ministres qu'il ne peut pas parler de démission comme ça. Voilà. Le Monseigneur Théas donc, va rencontrer à deux reprises le général de Gaulle, et il a une intuition lors de la première rencontre, c'est de ne pas lui parler le langage ecclésiastique ou le langage diplomatique, mais lui parler comme un militaire. Donc premièrement, deuxièmement, troisièmement, et finalement le courant passe. Ils ont, la rencontre a été bonne, chacun évidemment ayant son point de vue. Monseigneur Théas, et c'est important de le dire, d'emblée, est solidaire de tous les évêques de France, même s'il ne partage pas les points de vue de tel ou tel ou le comportement qu'a pu avoir tel ou tel, il est solidaire de tous les évêques de France qu'il représente. Voilà. Et en même temps...
Dites-nous un mot aussi de l'opinion qu'il se fait du général de Gaulle, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ces petites fenêtres comme ça sur l'histoire. Il lui fait une forte impression. Il dit, oui, entre autres, que c'est selon lui un grand chrétien.
C'est ça. Il commence par dire c'est un grand homme dans tous les sens du terme. Monseigneur Théas mesure 1m75, le général de Gaulle un peu plus. Bon, en plus de ça, il a été touché par la manière dont il a été accueilli, un peu comme un héros, parce qu'il était quand même, il sortait d'un camp d'internement nazi. Et il découvre ce qu'il savait, que le général de Gaulle était chrétien. Il le savait parce que ça lui avait été dit, dans la mesure où le général de Gaulle avait rencontré le pape Pie XII quelques mois avant. Et le pape Pie XII a été profondément impressionné par la personne du général de Gaulle. Voilà, le fait qu'il soit chrétien, bien sûr, mais par son humanité. Voilà.
Alors je voudrais que vous nous racontiez un autre épisode, puisqu'on on est obligé d'avancer à grands pas. C'est une lettre qu'a écrite François, un article pardon, de presse qu'a écrit François Mauriac, donc ce grand écrivain français après-guerre. Oui. Qui a jeté de l'huile sur le feu, mais qui dit aussi dans quel état d'esprit était une bonne partie de la France.
C'est ça. Alors, François Mauriac, donc grand homme de lettres, qui écrivait notamment pour le Figaro.
Membre de l'Académie.
Membre de l'Académie, enfin une figure importante. À un certain moment, un chrétien, un bon chrétien, un chrétien engagé, à un certain moment, publie un article dans le Figaro pour justement se faire l'écho de l'opinion du gouvernement provisoire en disant « certains évêques n'ont peut-être pas été exemplaires, il serait temps qu'ils démissionnent ». Voilà.
Et scandale.
Scandale, c'est-à-dire que, encore une fois, l'évêque dépend du pape. Il ne dépend pas de l'opinion publique, il ne dépend pas du gouvernement en place, il ne dépend pas du bon vouloir d'un journaliste, fût-il François Mauriac. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, bon, une partie de l'opinion publique s'est quand même émue qu'on puisse tenir de tels propos. Le Monseigneur Théas voulait écrire une lettre au Figaro pour se plaindre. François Mauriac en a été informé et finalement prend lui-même les devants. Il vient rencontrer Monseigneur Théas, voilà, pour dire le fond de sa pensée, qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Et les choses s'arrangent comme ça. Et il présente François Mauriac, sachant que Monseigneur Théas allait rencontrer le pape Pie XII quelques semaines plus tard. Il demande à Monseigneur Théas de présenter ses excuses au pape. Voilà, puisque il s'est déplacé un petit peu sur le terrain d'action du pape, c'est le pape qui décide de ce que doivent faire les évêques. Voilà.
Alors on y vient, autre petite fenêtre sur la grande histoire, c'est donc sa première audience donc de Monseigneur Théas avec le pape Pie XII, voilà, qui est raconté avec force détail. Et émotion. Peut-être ce qui est très très beau dans cette rencontre, moi en tout cas ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir l'affection et l'affliction aussi profonde qui était celle du pape Pie XII pour la France et toutes les souffrances qui ont été endurées. Alors évidemment pas que par la France, mais en l'occurrence Monseigneur Théas représentait la France. Le pape m'appelle et je me trouve à genoux devant lui. Il m'embrasse en disant « Quelle joie de recevoir le premier évêque français depuis la libération. Ce geste m'émeut profondément et je demande au Saint-Père la permission de rester à genoux pendant l'audience, etc. » Et le pape est vraiment, enfin on sent... il le décrit comme tel, en tout cas plein de chaleur et de tendresse.
C'est ça. Alors on l'avait prévenu, c'est-à-dire on lui avait dit, c'est la première fois qu'il rencontre le pape, c'est la première fois qu'il rencontre un pape, Monseigneur Théas. Et sachant toute l'importance qu'a le pape vicaire du Christ sur la terre pour lui, c'est pour ça que là vous venez de citer cette phrase, il fait une génuflexion rituelle et il demande de pouvoir rester à genoux pendant l'entretien. Et le pape lui dit « asseyez-vous ». Bon, ça veut dire, pour lui, il vient un moment extraordinaire. Voilà, il est en présence du vicaire du Christ, c'est-à-dire du Christ. Voilà. Et en même temps, on l'avait prévenu, c'est-à-dire que le pape Pie XII pouvait être très impressionnant publiquement, notamment dans la célébration liturgique, alors que quand il recevait dans son bureau, il était très, très paternel, très, très bienveillant. Et ça touchait beaucoup Mgr Théas, le rejoignant un petit peu dans sa propre approche, parce que Mgr Théas aussi était un homme capable d'être fort, dur, etc. Et en même temps, voilà, avec ce cœur d'enfant.
Alors, on va peut-être pas détailler en fait ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, il lui fait un portrait de la France, lui expliquant les mérites et les torts du gouvernement français selon lui, et l'incitant en fait à certaines positions. Bref, il a l'impression qu'il éclaire en fait le pape Pie XII. Il a contribué à éclairer le pape Pie XII après-guerre quant à l'attitude que le Saint-Siège devait tenir à l'égard de la France pour faire en sorte que la libération se passe de la manière la plus heureuse qui soit.
C'est ça. Parce que les tensions étaient certaines, pas seulement en raison de quelques évêques. Bon. Mais la tension était certaine, notamment sur un point fondamental pour le gouvernement provisoire, c'est la question du nonce apostolique, Monseigneur Valerio Valeri. Le nonce apostolique est en quelque sorte l'ambassadeur, le représentant du pape dans un pays, donc en France. Et la règle du gouvernement provisoire de la République, donc du général de Gaulle, c'était qu'aucun des ambassadeurs qui avaient été présents à Vichy ne pouvait représenter leur pays à Paris avec le nouveau gouvernement. Et donc, effectivement, le nonce apostolique, à un certain moment, s'était transporté à Vichy et le général de Gaulle ne l'a pas accepté. Et donc, il y a eu des grandes négociations, discussions, et c'est le seul point, finalement, sur lequel le général de Gaulle a pu avoir satisfaction, car le pape a décidé que, puisqu'il n'était pas persona grata, c'est-à-dire que puisqu'il sa présence n'était pas souhaitée, n'était pas désirable, eh bien, il nommerait un autre nonce, pour cette raison-là. Et ça demandait, comme c'est quand même un événement diplomatiquement important et inhabituel, ça demandait toute cette négociation mise en œuvre, notamment par Mgr Théas.
Pour finir l'émission, au risque d'être un peu polémique, quoique ça surprendra pas grand monde, j'aimerais juste que vous nous disiez aussi quelques mots quant à la grande inquiétude que l'on peut lire dans ce journal l'Église à l'égard des communistes juste après-guerre. Voilà, ça paraît loin, mais c'est cité à plusieurs reprises. Voilà, on sent que l'Église est confiante quant à l'issue de la libération. Mais que la grande angoisse, c'est le communisme.
Alors effectivement, bon, la grande angoisse, c'était le nazisme, bien sûr, et aussi le communisme. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Église est inquiète de la présence des communistes, notamment en France, ce qui n'est pas le cas du général de Gaulle. Le général de Gaulle apporte ce témoignage qui est fort en disant « La France n'est pas un pays communiste. Les communistes ont souffert pendant le temps de l'occupation. Voilà, au moment de la libération, ils connaissent une autre phase de leur histoire, mais tout ça rentrera dans le rang. Et de fait, c'est un peu ce qui s'est passé. »
Et le pape Pie XII n'a pas l'air aussi aussi confiant que cela.
Non, le pape Pie XII, non, parce que lui-même, il a vécu préalablement en Allemagne pendant des années, quand il était nonce apostolique, et il donne d'ailleurs un exemple. À un certain moment, il s'agissait de faire, je crois, l'anniversaire du maréchal Hindenburg, et donc tout le corps diplomatique a dû faire quelque chose, et il a représenté, donc en tant que doyen, il a représenté le corps diplomatique, et seul l'ambassadeur de l'URSS n'a pas été d'accord. Voilà, il a dit, voilà, c'est ça le communisme.
Merci beaucoup, Père Régis Marie de la Tessonnière, d'être venu au micro de Vivante Église ce matin, donc pour cette page d'histoire, pour ceux qui voulaient connaître ou mieux connaître Monseigneur Pierre-Marie Théas. Donc on peut trouver cet ouvrage, paru aux éditions Onto, intitulé « Mes prisons et leur premier lendemain », avec une préface de Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque, lui, de Tarbes-et-Lourdes, évêque actuel. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Gilles Galbardi. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.